Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio et de podcasting tous les mois, le rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés des médias. Vous écoutez Des ondes vocastes, bienvenue.
Des ondes vocastes.
Comme toujours dans ce nouvel épisode, on va parler de l'actualité, de l'innovation et de l'histoire de la radio avec en invité Lomig Guillot, ce rédacteur en chef de Management Magazine, rédacteur chef adjoint des hors-série du magazine Capital, a fait de la radio dans les années 90 et 2000 et vous pouvez l'entendre aujourd'hui au sein des podcasts du groupe Prisma. Et justement pour la partie actu, le tour des ondes, on s'écoutera différents extraits issus des podcasts de Prisma Média. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez être surpris à quel point ce groupe semble construire une excellente stratégie de médias global en misant sur de nombreux contenus en podcast. Je vous disais que Lomig avait fait de la radio avant d'être à Prisma. Il travaillait pour Rire et Chansons. Et justement, dans la partie archive de l'émission, je vous propose cette fois-ci de revenir sur le forcing du groupe Énergie face au CSA dans les années 90. Comment Énergie a imposé son réseau de radio locale Rire et Chansons dans le paysage radiophonique. Si vous adorez les médias et leur magouille, vous allez être servi. Et en plus, vous entendrez des archives datant de cette période. Cette partie de l'histoire radiophonique est très intéressante. Restez bien jusqu'au bout. En tout cas, un programme bien chargé encore une fois dans ce nouvel épisode et on commence tout de suite avec le zapping radio podcast, le tour des ondes, avec comme invité Lomig Guillot.
Des ondes vocast, le tour des ondes en 80 tours.
Pour cet épisode, on va parler des podcasts du groupe Prisma. Prisma Média, c'est le magazine Capital, Harvard Business Review, mais aussi Voici, Femme Actuelle, Géo, Télé Loisirs et plein d'autres marques. C'est un géant dans le secteur de la presse magazine. Et ce qui est remarquable, c'est à quel point le groupe investi dans les podcasts. Pour en parler, je reçois Lomig Guillot, journaliste, rédacteur en chef du mensuel Management Magazine et rédacteur chef adjoint des hors-séries du magazine Capital. Bonjour Lomig.
Bonjour Anthony.
Alors, ce que je trouve très intéressant avec Prisma, c'est que dès 2017, Prisma complète son offre et investit également dans l'audio. Tout a commencé avec un partenariat avec Deezer en proposant une version parlée d'articles des différents magazines. Et puis, petit à petit, on a vu naître des podcasts distribués sur toutes les plateformes. Alors, il y a eu la saga des marques en 2018, ou même le Flash Echo de Capital, un podcast quotidien toujours en activité. C'est d'ailleurs très avant-gardiste d'avoir proposé un tel format, un flash sur les actus économiques. Ce podcast est proposé depuis le début en source d'actualité audio via les assistants vocaux. Alors il me semble, Lomig, que ton premier passage au micro avec Prisma Média, c'était pour le podcast Les Génies du Numérique à partir de 2019, toujours pour Capital. D'où est venue l'idée et comment ça s'est mis en place concrètement ce podcast?
On m'a proposé de rejoindre une cellule qu'on a créée en interne chez Prisma en transverse, qu'on appelle une task force audio, une petite équipe en fait où on se charge de développer l'audio et les podcasts pour le groupe. Donc on a chacun notre casquette, il y a un spécialiste de la tech, un spécialiste du marketing, un spécialiste de la monétisation et de la pub, etc. Et moi j'ai plutôt la casquette éditoriale. Et donc on m'a demandé au sein de cette cellule de voir comment on pouvait développer des contenus audio pour les différentes marques du groupe et accompagner les rédaction dans la création de podcasts pour nos marques. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je commence par m'appliquer à moi-même les conseils que j'allais essayer de donner aux autres et donc de créer moi-même quelques podcasts. Et le premier, effectivement, c'était Les Génies du Numérique. À partir d'un, l'idée, c'était assez simple, c'était de voir comment on pouvait décliner un contenu print en audio, voir si c'était assez naturel ou si ça demandait beaucoup de travail d'adapter certains de nos contenus en version audio. Et ça s'y prêtait plutôt parce que c'était un hors-série avec beaucoup de portraits de génies du numérique, donc des grands patrons, des grands entrepreneurs, de Xavier Niel à Jeff Bezos, en passant par Mark Zuckerberg et d'autres. Et donc, on a travaillé sur une adaptation en fait de ces portraits en podcast.
Tu veux dire qu'en fait, à la base, c'était un podcast qui était en complément du hors-série en magazine, en fait.
Oui, on l'a fait un petit peu après, donc c'était pas vraiment en complément, c'était voir si on pouvait faire vivre autrement nos contenus, puisque donc, Prisma Média, c'est à l'origine un groupe de presse magazine. On s'est effectivement beaucoup diversifié sur le web, sur la vidéo, et on est un groupe qui est, on se veut, nous, producteurs de contenu. Pour nous, le cœur de nos métiers, c'est produire, imaginer des contenus. Et on s'est rendu compte que l'audio était finalement une façon assez naturelle de prolonger l'existence de nos contenus. Il y a beaucoup plus de liens entre l'écriture magazine et l'écriture audio. C'est beaucoup plus facile pour nos journalistes qui sont encore dans les magazines et qui travaillent pour nos magazines de développer des produits audio finalement que de la vidéo. Le travail de la vidéo est finalement très différent de celui de l'écriture magazine, alors que le travail de l'écriture audio est assez proche. Il y a plus de passerelles naturelles Ça vient aussi sans doute du fait que l'audio et la radio en particulier sont, contrairement à ce que beaucoup pensent, des médias qui, à mon sens, sont très écrits. Ça demande quand même beaucoup d'écriture. On en a la preuve d'ailleurs aujourd'hui, puisque avant cet enregistrement, tu m'as partagé une partie du script de ton podcast qui est très, très écrit. Et je pense qu'effectivement, voilà, c'est assez naturel de passer de l'écrit à l'audio.
Alors en août 2019, Prisma devient le diffuseur officiel des podcasts adaptés en langue française du célèbre studio américain Wondery. On a pu écouter Docteur la Mort, la version de Docteur Death, traduit dans la langue de Molière. Et toi, tu deviens la voix française de Guerre de Business, l'adaptation de Business Wars, disponible dès novembre 2019. Alors ce podcast raconte les histoires de rivalité économique, hein, les affrontements entre deux géants du soda ou deux géants de automobile par exemple. Concrètement, Prisma paye une licence de diffusion ? Quel est l'intérêt d'un tel accord avec le studio américain ?
Non, en fait, Wondery nous a rencontrés parce qu'ils cherchaient un partenaire pour la diffusion de leur podcast. Ils se sont lancés dans pas mal de pays en même temps. Guerre de Business aujourd'hui, hein, j'ai peur de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 7 langues différentes qui existent. C'est assez marrant d'ailleurs à écouter, une fois en allemand, une fois en portugais pour le Brésil. Enfin, il y a plein de langues différentes. Et donc, pour répondre à la question, ils cherchaient un partenaire. C'est un accord de diffusion qui repose essentiellement sur la monétisation des podcasts. Donc, on commercialise les podcasts en France et on partage avec Wondery les recettes publicitaires.
Donc, en gros, vous chargez de l'adaptation et eux, tout ce qu'ils demandent, en fait, c'est que si vous mettez de la pub, ils prennent un certain pourcentage, c'est ça ?
Oui, en gros. On décide ensemble des thématiques qu'on a envie de traduire, des sujets qui nous semblent intéressants pour le marché français, parce qu'il y a quelques guerres de business qui sont très américaines, entre des géants qu'on ne connaît pas forcément nous ici en France. Donc on choisit avec eux les saisons qui nous semblent les plus intéressantes pour le public français. On travaille l'adaptation avec eux. En général, la façon dont ça se passe, ils nous proposent une première traduction assez sommaire des scripts que je retravaille moi directement, donc il y a beaucoup de boulot d'adaptation. Ensuite, on enregistre les versions françaises, c'est remixé chez eux pour garantir la ligne éditoriale et le respect du format. On travaille vraiment comme du doublage de série. D'ailleurs, on enregistre non pas chez Prisma avec nos moyens à nous, mais dans un studio qui travaille beaucoup avec Netflix, qui fait du doublage de série. Wondery a un partenariat aussi avec ce studio. Donc ça demande un gros travail d'adaptation parce qu'il faut que le texte évidemment soit fluide et compréhensible et clair en français, mais il faut respecter absolument le time code de la version originale pour tous les effets sonores, et c'est un podcast qui est extrêmement riche en effets sonores, qui est très produit, donc ça nous oblige à une vraie gymnastique pour enregistrer ça. C'est vraiment comme le doublage d'une série.
Est-ce que vous avez des objectifs de revenus à fournir à Wondery ?
Oui, on s'engage à commercialiser un minimum chaque année les podcasts.
Pour être honnête avec toi, au tout début, j'étais pas spécialement très fan de Guerre de Business. Alors, j'ai pas tout de suite accroché en fait avec les premières séries Coca-Cola vs Pepsi. Ensuite, il y a eu Nike vs Adidas.
C'était Nike Adidas la première. Ouais.
Ah, c'était Nike Adidas et ensuite Coca-Cola vs Pepsi. Bah moi, j'ai d'abord découvert Coca-Cola vs Pepsi. Mais j'ai vraiment adoré l'adaptation Facebook vs Snapchat. En fait, c'est même un ami qui m'a relancé en me disant « Mais est-ce que tu connais ce podcast ?» C'est vrai que là, en fait, j'ai adoré. Alors peut-être parce que ça me parlait plus. Et puis surtout, McDonald's vs Burger King, j'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai que maintenant, je suis limite accro. J'ai trop envie d'entendre la nouvelle saison.
On a 6 épisodes qui sont près de la guerre entre Boeing et Airbus.
Ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous proposer le début de la version américaine de cette série-là, Boeing vs Airbus de Business Wars. C'est la version américaine produite par Wondery. Écoutez.
By the time the previously poorly understood problem of metal fatigue is identified as the cause, De Havilland is a broken company. Its jet plane is grounded and it's hurtling towards bankruptcy. Europe's early lead in jet travel vaporizes. But Europe's loss will be America's gain. And that's because a military plane manufacturer called Boeing is about to use the comet's tragic demise as an opportunity to conquer the civilian jet market. From Wondery, I'm David Brown, and this is Business Wars.
Et maintenant, l'adaptation en français avec toi, Lomig.
L'image de De Havilland est déjà détruite. Son avion en réaction est interdit de vol et l'entreprise file tout droit vers la faillite. L'Europe a raté l'occasion de devenir leader de l'avion en réaction. Mais le malheur des Européens va faire le bonheur des Américains. De l'autre côté de l'Atlantique, un constructeur d'avions militaires appelé Boeing va profiter de la tragédie du comète pour partir à la conquête du marché de l'aviation civile. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillot.
Guerre de business, hein, qui a retrouvé sur toutes les plateformes habituelles de podcasting et puis sur capital.fr.
Oui, c'est vrai que c'est aussi important dans le partenariat qu'on a avec Wondery, c'est qu'on a lancé ce podcast en association avec Capital et notamment le site capital.fr qui est extrêmement puissant. C'est le premier site d'info éco en France aujourd'hui, largement loin devant les autres avec près de 11 millions de visiteurs tous les mois. Donc forcément, quand on met en avant nos podcasts sur nos sites et notamment Guerre de Business sur capital.fr, on touche énormément de monde.
C'est vrai que moi je trouve ça très très malin d'associer des contenus aussi bons à des marques aussi fortes comme Capital pour Guerre de Business, mais aussi Télé Loisirs pour Docteur Lamort.
Exactement, et on espère d'autres bientôt.
Prisma avait annoncé 4 adaptations du studio Wondery, donc Docteur Death pour et Business Wars sont bien disponibles à l'écoute. En revanche, Dirty John, qui a été adapté sur Netflix hein, d'ailleurs, et Over My Dead Body, ces deux podcasts-là ont été annoncés, mais les versions françaises n'ont toujours pas vu le jour depuis un an. C'est pour bientôt ?
On espère, c'est des podcasts qui sont très produits, qui coûtent assez cher à réaliser, et donc on les lance quand on est sûr d'avoir un sponsor. C'est pour le moment, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à trouver.
Ce sera associé à quelle marque précisément, tu le sais ?
Non, pas encore. Peut-être Télé Loisirs, puisque c'est proche de l'univers effectivement Netflix et de l'univers des séries.
Alors, pour revenir au podcast produit intégralement par Prisma, en mars 2020, Management sort le journal du télétravail. Alors aujourd'hui, c'est en hebdo, hein, mais auparavant, c'était un podcast quotidien proposé suite au confinement général en France. C'est toi également au micro. Ouais. Alors, les bonnes pratiques, les meilleures façons de s'organiser, les aspects juridiques du télétravail. Bref, un podcast de circonstances lancé dès le 18 mars, donc en un temps record. Donc, hein. Tu gères le projet seul, tu produis tout de A à Z pour le journal du télétravail.
Oui, alors bon, merci d'avoir choisi cet exemple. Et c'est vrai que je suis très content de pouvoir en parler. Je veux quand même dire qu'il y a plus de 40 podcasts et programmes différents aujourd'hui chez Prisma, donc je ne les fais pas tous, heureusement. Et loin de là, il y a beaucoup de rédactions impliquées et très actives aussi sur ce sujet. Là, c'est vrai qu'au moment du confinement, ça nous semblait assez naturel avec Management de proposer un podcast autour du télétravail et de ce qu'une bonne partie de la population a découvert à cette occasion, c'est-à-dire le télétravail. Et oui, c'est parti d'une idée que j'ai eue en discutant avec un des avocats qui est chroniqueur dans Management et qui tous les mois répond à des questions juridiques, qui me disait « Tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire une petite interview sur le droit du travail et le télétravail ?» Et je me suis dit « Au lieu de faire une interview, on va lancer un podcast et on va le faire en quotidien pendant le confinement. » Et oui, je l'ai fait tout seul de chez moi, confiné moi aussi, derrière un micro.
Alors pour ceux qui n'ont pas écouté hein, le journal du télétravail avec toi, Lomig, c'est ça.
Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de Management. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et puisque le télétravail est de nouveau plus que recommandé par le gouvernement et que vous êtes de plus en plus nombreux à le pratiquer, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce JT avec toujours plus de conseils et de témoignages pour mieux télétravailler. Que vous soyez à l'écoute dans les transports, en home office ou au bureau, merci de votre fidélité, soyez les bienvenus, c'est parti.
C'est le journal du télétravail.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ton voisin dans le journal du télétravail. Ton voisin, c'est le pseudo d'un auteur qui a déjà signé de nombreux ouvrages, des pamphlets sur la bêtise humaine, dit-il sur son propre site. Des livres comme « Vivre avec des cons »,« Travailler avec des cons »,« Voyager avec des cons » ou encore « Dîner avec des cons ». Il signe en cette rentrée « Déconfiné avec des cons » aux éditions Pygmalion, un ouvrage dans lequel il est notamment question de télétravail. Et c'est pour cela que nous le recevons aujourd'hui. Bonjour voisin.
Bonjour Lomig. Oui, je suis reçu par Lomig.
Eh ben voilà, enchanté et ravi de vous recevoir. Vous êtes chercheur, dites-vous, en chronologie appliquée. Alors peut-être entendons-nous, avant de parler plus en détail encore de télétravail, qu'est-ce qu'exactement qu'un compte bureau ?
Un compte bureau, c'est quelqu'un qui va être dans une position, en règle générale, non facilitatrice.
Les cons au télétravail, ça ose tout. Bah, tout est dit dans le titre de l'épisode. Je vous invite à vous abonner.
Un épisode qui a très bien marché d'ailleurs.
Je vous invite à vous abonner à ce podcast, hein, le journal du télétravail avec Lomig Guillot, qui est mon invité pour cet épisode dans Des Ondes Vocast. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais on peut aussi t'entendre au sein d'un autre podcast de management qui se nomme Manageflix. C'est un podcast avec un coach qui donne des conseils sur les pratiques du management en s'inspirant des personnages de séries télé. Mais il n'y a plus de nouveaux épisodes depuis juillet dernier. Pourquoi ? Faute d'audience ?
Oui, c'est une coach, c'est Yaël Gabizon avec qui on fait ce podcast, qui est spécialiste du storytelling. Et il n'y a pas d'épisode parce qu'avec le confinement, on a eu du mal à enregistrer. Mais on en a quelques-uns prévus, donc c'est quelque chose qui va reprendre assez vite avec, on l'espère, un rythme plus régulier. C'est des épisodes qui font 10-15 minutes, c'est une conversation avec Yaël, et effectivement, à chaque fois, on essaye de s'inspirer, de voir comment on peut s'inspirer d'un personnage de série télé pour améliorer sa pratique managériale ou ses rapports avec les collègues. Il y a, je sais pas, négocier comme Tony Soprano ou savoir mentir vrai comme Don Draper, le héros de Mad Men.
Alors le groupe Pixma a lancé plein de podcasts ces derniers temps. Alors tous très divers, hein, mais toujours en cohérence avec les différentes marques. Alors cela va de l'horoscope femme actuelle aux théories de fans pour télé-loisirs. Beaucoup sont discontinués, mais il y en a un qui cartonne en particulier, Mourir moins con, associé à Genside. Alors un nouvel épisode sort tous les 2-3 jours et on y retrouve des anecdotes du style pourquoi les balles de tennis sont jaunes. Cela rappelle beaucoup le concept d'un autre podcast qui cartonne, chose à savoir, et c'est très malin, je trouve, de s'être positionné sur ce créneau, sur ce type de format. Mourir moins con, écoutez ce que ça donne.
Pourquoi Google s'appelle Google ?
Poser une question.
Alors, question ?
Quelle étrange question.
Vous avez des questions ?
C'est l'occasion de mourir moins con.
Vous voulez savoir si Serge Reggiani est mort ? Vous voulez connaître l'âge de Michel Drucker ? Ou les prochains horaires de ciné ? Un seul réflexe, Google. Parce que Google a réponse à tout, et que même nos parents sont au courant. Google est ton ami. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Je suis pas certain de ça. Alors oui, Google est notre ami en termes de recherche sur Internet, et parce qu'on est du genre à prendre soin de nos amitiés, nous sommes en droit de découvrir le passé de notre pote Google et de lui poser cette question. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça ? À quoi pensaient tes parents ?
On ne te laissera pas appeler ton fils comme ça, tu n'auras pas le droit !
Alors, les parents de notre cher Google ne sont autres que Larry Page et Sergey Brin. À l'époque, nos deux étudiants créent le moteur de recherche Google, mais qu'ils n'appellent pas encore Google. Bref, quand Google débarque, nous sommes en 1995. Mais pourquoi nommer Google Google ? Eh bien, si Google s'appelle ainsi, c'est en référence au mathématicien américain Edward Kastner, qui en 1938 s'est fixé un objectif, trouver un mot pour désigner le chiffre 1 suivi de 100 zéros, soit 10 puissance 100.
Hey, encore zéro !
L'histoire voudrait que son neveu l'ait aidé pour trouver ce mot, alors qu'Edward le questionne, le petit de 8 ans, inspiré, répond systématiquement « Google ». Peut-être parlait-il la bouche pleine ? En tout cas, le mathématicien adore. Donc voilà comment aujourd'hui, Google est un nombre entier égal à 10 puissance 100.
Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle.
Sapristi ! C'était un podcast Genside.
Donc voilà, très sympa ce podcast. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est de ne pas être réellement quotidien. On le retrouve tous les 2-3 jours. Mais sinon, ouais, c'est vraiment sympa, c'est bien produit, c'est bien illustré. Vraiment très bien.
Et ça cartonne en audience.
Et oui, hein, le podcast Mourir moins con, qui est la 6e place du classement des podcasts en septembre 2020, le classement de la CPM, hein, qui relève 365 000 téléchargements mensuels. Alors, Guerre de Business, hein, est à la 28e place, avec 58 000 téléchargements au cours du mois de septembre, alors qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes ce mois de septembre. Donc, c'est vraiment un score très honorable. Et si on raisonne sur le plan groupe, Prisma Media, c'est plus de 690 90 000 écoutes dans le monde sur le mois de septembre. Alors, est-ce qu'il y a des objectifs d'audience globalement qui expliqueraient d'ailleurs que certains podcasts ont été arrêtés, ou est-ce que pour l'instant tout est au stade expérimental sans réelle considération économique en dehors des podcasts en partenariat avec Wondery? On en a parlé tout à l'heure.
Les deux. Il y a beaucoup de choses qu'on expérimente. Il y a beaucoup de choses qui reposent quand même, il faut le dire, aujourd'hui sur la volonté des animateurs et animatrices de nos podcasts, qui sont pour la plupart les journalistes de nos rédactions, qui font ça souvent en plus, par passion, par intérêt. Donc il faut quand même qu'ils aient le temps de se consacrer à ces projets. Ensuite, il y a des podcasts qui sont prévus pour avoir une durée limitée. Je pense notamment, en ce moment, on a un très bon podcast avec Ça m'intéresse Histoire, qui est le magazine d'histoire de Ça m'intéresse, un podcast qui s'appelle Charles par De Gaulle, qui raconte l'histoire et la vie du général De Gaulle, qui a été lancé à l'occasion de l'anniversaire de l'appel du 18 juin. C'est des épisodes hyper bien produits, un vrai storytelling. C'est vraiment bien fait, je vous invite à les écouter. Ensuite, sur l'audience, non, on teste des choses, on espère et on essaye, comme tout le monde, faire le plus d'audience possible. Après, c'est compliqué de mesurer réellement.
Alors, le groupe revendique un ordre de 10 millions d'écoutes cumulées en 2019. Et donc, si je parle audience...
La même chose, rien qu'au premier semestre 2020. Pour la première moitié, les 6 premiers mois de 2020, on a déjà fait 10 millions.
10 millions, d'accord. Alors, si je parle audience, forcément, tu me vois venir. On va parler modèle économique. Depuis l'été 2020, Prisma commercialise son inventaire audio en programmatique avec Audion. Des spots de pub sont insérés au moment de la requête, donc au moment où l'auditeur lance la lecture ou le téléchargement. Donc c'est principalement du pré-roll, c'est-à-dire en début d'épisode. Mais il y a aussi du sponsoring, notamment on a pu t'entendre faire du host read, à savoir mettre en avant la solution de communication. Je crois que c'était Slack, tu faisais la promotion pour Slack.
Oui, dans une des dernières saisons, ouais. C'est Slack qui était partenaire de Guerre de Business. On a trois façons, en gros, de commercialiser aujourd'hui nos podcasts. La première, c'est effectivement la publicité programmatique qui est vendue via une sous-régie, c'est Audion. Donc là, en fait, un annonceur va vouloir acheter X milliers ou millions d'écoutes. Il va acheter un volume d'écoutes, peu importe finalement le podcast sur lequel la publicité va être diffusée. Donc on va trouver cette pub sur l'ensemble de nos podcasts qui touchent la cible qui intéresse cet annonceur. Et le deuxième modèle, c'est un annonceur qui va vouloir... s'associer spécifiquement à un programme parce que l'image lui plaît, parce qu'il touche une cible encore plus précise, parce qu'il a vraiment envie d'avoir un partenariat privilégié avec ce contenu et ce programme. Ça a été le cas donc avec Guerre de Business, où effectivement la première saison était sponsorisée par Salesforce, puis on a eu ce partenariat avec Slack, et là ils achètent en gros un nombre d'écoutes. Donc la campagne est diffusée, et quand le nombre d'écoutes est réalisé, on ne l'entend plus. Et le troisième modèle qu'on développe aussi pas mal, c'est du brand content, c'est-à-dire des podcasts, des programmes qu'on conçoit spécifiquement pour une marque.
Alors, il y a des exemples de podcasts en brand content produits par Prisma ?
Par Prisma, oui. Par exemple, on a lancé récemment un programme qui s'appelle Code RH avec Capital, pour un cabinet d'avocats qui s'appelle Fromont Briens. Donc, c'est des podcasts sur le droit du travail avec ce cabinet qui est spécialisé là-dedans. On a lancé un podcast qui s'appelle Il était un poids pour Dossi, qui est fait en partenariat avec Ça m'intéresse, en tout cas qui est médiatisé via le site de Ça m'intéresse.
J'aime bien le titre.
On a fait un podcast qui s'appelle Pas de retraite pour le sexe pour Téna, donc sur un public plutôt féminin senior. Il se trouve qu'on a Femmes Actuelles et Femmes Actuelles Senior qui nous permettent également de mettre en avant ces podcasts. L'idée, globalement, à chaque fois, quel que soit d'ailleurs le podcast, c'est de profiter de la puissance, de la notoriété, de la légitimité de nos marques, pouvoir mettre en avant ces contenus.
C'est vrai que c'est très intéressant, ce que fait Prisma, et finalement Prisma a fait ça déjà pour la vidéo, a fait ça pour ses articles textes en web, et maintenant le fait en audio. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors le podcast en termes de volume, c'est par contre largement moins significatif qu'en web, enfin, ou en vidéo. Surtout, la mesure d'audience des podcasts est vraiment plus problématique. Comme on l'a démontré lors du dernier épisode, les chiffres peuvent être facilement manipulés. Finalement, on se rend compte que la pub n'est peut-être pas le modèle, on va dire, le plus pertinent pour le podcast, du moins aujourd'hui en France. Enfin, ça, c'est mon avis. Quel est le tien ?
Moi, je pense que c'est un modèle, qu'il y en a sans doute d'autres. On a fait une étude, on a commandé une étude via notre régie publicitaire auprès d'un institut il y a quelques mois, qui disait que les Français étaient prêts à payer entre 2 et 4 euros pour un épisode s'il est jugé qu'il était vraiment qualitatif et qu'il leur apportait quelque chose. Moi, je pense qu'il y aura une offre payante qui va sans doute se développer. Et puis peut-être pour des contenus plus de divertissement, plus à consommer au quotidien, parler des flash infos, de Capital, le flash éco ou des programmes plus ludiques. pense que la publicité reste malgré tout un bon modèle. Et je pense que les deux modèles sont pas incompatibles.
Il y a un podcast de Prisma Media que je suis avec passion, 21 millions hein, avec Grégory Raymond. C'est un excellent podcast sur les crypto-monnaies, sur les technologies blockchain. Et la particularité de ce podcast, c'est qu'il est décliné en newsletter et en newsletter payante également.
Alors, exactement.
21 millions, le podcast, c'est ça. Écoutez.
Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions,
Bonjour à tous, c'est le retour de 21 millions, le podcast Crypto Pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la finance décentralisée, un secteur que vous pouvez aussi rencontrer sous le terme de DeFi. Alors derrière cette appellation, on retrouve le concept de décentralisation propre aux crypto-monnaies qu'on applique cette fois aux principes et aux mécanismes de la finance. Ça peut paraître compliqué, mais pour faire simple, imaginez des produits financiers comme un compte épargne ou des prêts, mais que l'on pourrait contracter grâce à un programme informatique sans qu'un banquier mette son nez dedans. En gros, une banque sans banque. Les bénéfices sont multiples. On bénéficie de meilleurs taux, les coûts sont réduits, les contrats exécutés plus rapidement et certaines décisions sont dépolitisées. Pour nous parler de ce secteur émergent au fort potentiel, je reçois pour cet épisode Brice Berda qui appartient à l'équipe en charge du développement du portefeuille numérique Monolith. Bonne écoute et surtout ne manquez pas la newsletter 21 millions qui s'apprête à débarquer ce mois-ci.
21 millions, le podcast de Prisma qui vient de sortir une déclinaison en newsletter payante. Donc, cette offre a été lancée début automne 2020. Et je trouve ça vraiment intéressant de tester ce modèle économique. Finalement, le fait d'avoir des offres payantes, d'avoir un lien si fort et direct avec son audience, c'est très intéressant. Et peut-être une piste de monétisation pas assez considérée par les différents groupes médias. Puis justement, Wondery qui a lancé récemment Wondery Plus, hein, un abonnement mensuel avec une application pour écouter tous les contenus du studio sans pub et aussi avec des exclusivités et des avant-premières. C'est $5 par mois ou $35 par an, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai qu'avec la publicité intervient aussi des intermédiaires, ce qui fait qu'au final, l'éditeur se retrouve avec une part du gâteau bien trop faible, de l'ordre de 50% hein, du budget de l'annonceur en moyenne. Donc du coup, est-ce que les abonnés de Capital ou Management pourraient avoir accès à un flux RSS privé avec du contenu exclusif, par exemple?
Oui, c'est effectivement une piste de réflexion. C'est quelque chose qu'on envisage. On pourrait imaginer d'autres, plein de types de contenus différents qui seraient réservés soit à nos abonnés, soit accessible de façon payante.
Alors Prisma Media et le groupe M6 sont un actionnaire en commun, Bertelsmann, ce qui explique pourquoi ensemble vous avez lancé AudioNow, une application pour écouter les podcasts des différentes entités. Alors pour être franc, j'étais surpris du lancement d'une telle application, parce qu'il y a déjà de nombreuses plateformes pour écouter les podcasts, c'est déjà assez difficile de s'y retrouver, car certains contenus sont dispo à certains endroits et pas à d'autres. Pour moi, AudioNow n'apporte rien de plus comparé aux autres interfaces en tant qu'auditeur. Alors certes, c'était un succès en Allemagne, mais pourquoi ce serait aussi un succès en France?
Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'accès au podcast pour les gens qui ne sont pas des habitués. Il se trouve qu'avec M6, RTL et Prisma, on a des marques très grand public. On pense qu'on peut s'intéresser un public très très large qui ne connaît pas, qui n'a pas encore découvert ces podcasts. L'idée de AudioNow, c'était de construire une plateforme qui soit ouverte à un maximum d'éditeurs et avec une vraie mise en avant éditoriale, d'une sélection par durée d'écoute, par moment de vie aussi. On peut aller dans, par exemple, ambiance plutôt travail, je fais le ménage, je suis avec les enfants, je passe une soirée avec des amis. Enfin, on a essayé de concevoir comme ça des recherches thématiques autour de moments de vie pour faciliter la découverte de podcasts. Et puis avec aussi l'idée qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir de la data sur qui écoute quoi et comment. Les différentes plateformes ne donnent pas forcément accès aux mêmes informations. Et nous, on a voulu vraiment créer une plateforme qui soit très, très ouverte pour les éditeurs et tous les podcasteurs et qui donne réellement accès à l'ensemble de la data et un maximum de data.
Alors c'est vrai que tu disais que c'était ouvert et effectivement hein, j'ai testé, j'ai essayé de soumettre des ondes vocastes et j'ai effectivement été accepté très rapidement. Il n'empêche qu'on a quand même du mal à comprendre la stratégie en termes de contenu et on a surtout du mal à voir comment attirer cette audience parce que ce qui me surprend par exemple c'est que les émissions phares de RTL qui appartient au groupe M6 hein, telles que les grosses têtes ne sont pas présentes. D'autres acteurs comme le groupe Altice sont aussi de la partie mais idem les shows phares de RMC ne sont pas présents. J'ai un peu l'impression qu'on va avoir deux plateformes, AudioNow pour les podcasts non issus d'une diffusion en linéaire et d'un autre côté les émissions de radio à la réécoute sur la plateforme commune des radios au nom de code Cosmos qui devrait sortir en janvier 2021.
C'est vrai que voilà, c'est pour l'instant AudioNow se concentre sur le podcast natif et on n'a pas les podcasts le replay radio qui va aller plutôt vers cette autre appli. Mais bon, après, les choses peuvent aussi évoluer. C'est vrai que ce serait sans doute plus simple d'avoir un seul accès pour un maximum de contenu.
C'était un peu une provoque quand je disais qu'il n'y avait pas d'apport supplémentaire pour l'auditeur. Alors, je suis un peu de mauvaise foi parce qu'en réalité, il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes, notamment le journal du JT du Management qui est par exemple proposé sur AudioNow 24 heures avant les autres plateformes.
Avec M6, RTL et Prisma, on s'est engagé à proposer nos contenus en exclusivité sur AudioNow. Alors, pour certains, c'est 24 heures à l'avance quand c'est des formats un peu d'actu et régulier. Donc là, le journal du télétravail, il est 24 heures. Les épisodes sont publiés 24 heures plus tôt sur AudioNow. Il y a d'autres podcasts qui ont un mois d'exclus.
Alors c'est marrant parce qu'au final, j'ai l'impression que l'objectif à long terme, ce serait d'abandonner la diffusion en podcast via flux RSS. En fait, l'idée que de ne donner accès au contenu qu'à partir d'interfaces maîtrisées par les éditeurs, notamment pour régler les problématiques de données d'audience et puis surtout pour limiter tous les intermédiaires qui sont assez souvent des freins pour votre diffusion.
Plus les podcasts sont diffusés, mieux c'est. Après, c'est vrai que c'est important d'avoir assez vite des mesures d'audience qui soient fiables et des données qui soient comparables. Là, ça nous oblige, très concrètement, hein, pour consolider l'audience de nos podcasts, on est obligé de prendre les données qui viennent de plein de sources différentes. Je pense que pour les podcasts, en tout cas, qui seront avec un modèle soit totalement gratuit ou un modèle publicitaire, plus la diffusion est large, mieux c'est. Après, la diffusion sera contrôlée ou maîtrisée pour des podcasts réservés à des abonnés.
Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, plus tard sur AudioNow, on pourrait avoir, entre guillemets, un lien entre nos abonnements des divers magazines Prisma et notre compte sur AudioNow pour avoir justement accès à des contenus exclusifs en tant qu'abonné?
Pourquoi pas, oui. C'est vrai que ce serait intéressant, en tout cas, d'imaginer ça.
Pour terminer, quel matériel et outils utilises-tu pour produire les podcasts comme en guerre de business ou même, dans une autre mesure, le journal du télétravail?
Ouais, alors chez Prisma, on a la chance d'avoir deux ingénieurs du son ou sound designers qui travaillent pour nous, donc qui travaillent beaucoup sur l'habillage, le montage, l'enregistrement d'un certain nombre de podcasts. Après, guerre de business, c'est particulier, comme je le disais, on travaille avec un studio qui fait vraiment du doublage, c'est encore une autre façon de travailler. Par exemple, pour un podcast comme le journal du télétravail que je fais moi dans mon coin, j'utilise un micro Yeti. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Audacity pour monter parce que c'est un logiciel qui était facile à installer à distance pour notre service informatique au début du confinement. Et je me suis habitué à travailler avec, ça fonctionne très bien. Et comme c'est un podcast qui fonctionne, qui est surtout, ce sont des interviews à distance, j'ai découvert Zencaster, qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui, là, tous les deux, qui est une plateforme vraiment super pour enregistrer à distance. Voilà. Alors, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, je crois que j'ai changé de micro pour la nouvelle saison et je l'avais mal réglé, donc c'est un peu saturé. Donc, voilà, mais c'est les aléas de
conditions télétravail,
du homemade.
Ben c'est noté en tout cas, et puis pour ma part je me suis prêté au même exercice, hein. J'explique en détail comment je produis des ondes Vocast, de l'idée du script à sa diffusion sur vocast.fr et sur toutes les plateformes. Devenez membre des ondes Vocast Premium sur premium.vocast.fr pour écouter cette partie là. On enchaîne dès maintenant avec une histoire absolument géniale, une partie de l'histoire de Rire et Chanson, radio que tu connais bien, hein, Lomig, pour y avoir officié. Justement, toi, tu as connu ce moment où Énergie a imposé la constitution de son réseau de stations locales Rire et Chanson. Ce coup de force face au CSA a profondément transformé le paysage radio à la fin des années 90. Lomig, tu animes Guerre de Business pour Prisma, mais là, c'est une véritable guerre de business entre radios.
Des ondes Vocast.
Automne 1996, un mardi matin sur une route départementale de Rouen. Comme tous les jours de la semaine, Bruno se rend à son travail en voiture. Et comme toujours, tout au long de son trajet, Bruno zappe de radio en radio.
Autant je suis pas pour dire du mal des cons quand ça se voit.
Quoi ? Encore un sketch ? J'aime bien Coluche, mais c'est fou cette radio. Ils mettent de plus en plus de chroniques humoristiques. C'est lourd à la fin. Bruno est branché sur 103.3 FM. Il écoute RVS, qui était en 1988 le premier réseau FM de Normandie. Il connaît bien RVS. En 1983, Bruno faisait partie des nombreux auditeurs à s'être mobilisés contre la commission Galabert, qui était défavorable sur son autorisation d'émettre. La radio a connu depuis des hauts, mais surtout des bas, jusqu'à faire faillite en 1993, avant d'être reprise par la SEP en 1994. Bruno a fait tout le tour de la bande FM ce matin. Il finit par se remettre à écouter RVS. Il est pile 9h. Ça tombe bien, il va pouvoir écouter les actualités locales.
RVS, merci d'être avec nous, il est 9h.
J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce fond sonore sur une autre radio à Mulhouse. Bon, du moment qu'il y a toujours le flash info de la région, je suis satisfait. RVS n'est effectivement pas la seule station locale à avoir adopté un tel changement de format. Ce que Bruno ne sait pas, c'est qu'en coulisses, un véritable affrontement entre le groupe Énergie et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, se prépare. La société de Jean-Paul Bautecroux ne veut plus se contenter d'une seule station à Paris pour son programme Rire et Chanson. Et malgré les règles du CSA qui l'en empêchent, le groupe Énergie manigance en 1995 pour s'octroyer des fréquences en province. Il tiendra tête jusqu'à totalement bouleverser le paysage radiophonique 3 ans plus tard. Bruno n'entendra plus d'actualité locale sur 103.3 suite à une ultime contrainte du CSA. Vous écoutez Guerre de Radio. Je suis Lomik Guillaume.
Petit clin d'œil à Guerre de Business, hein, totalement décorrélé de Wondery et Prisma, bien entendu. Mais vous l'aurez compris, on va parler de Rire et Chanson et comment Énergie a imposé le réseau de la radio du rire de 1995 à 1998.
Des ondes vocastes, les archives.
Rire et Chanson, c'est une radio du groupe Énergie qui a été créée par Jean-Paul Bautecroux en 1989. Alors à la base, c'est une station parisienne, Elomig. Donc toi, tu es là pour détailler comment Énergie a constitué un réseau Rire et Chanson dans toute la France.
Oui, en fait, Énergie a racheté en 89 un réseau qui s'appelait Pacific FM. Les stations en région sont alors affiliées à Chérie FM, qui appartient également au groupe Énergie. Chérie ayant déjà une fréquence à Paris à ce moment-là, la fréquence parisienne est utilisée pour créer Rire et Chanson, la radio Rire et Chanson qui propose depuis sa création un programme musical de Gold, essentiellement dans un style plutôt pop-rock, le tout ponctué de sketchs d'humoristes.
Alors le 1er février 1994, la loi dite Carignon permet au groupe radio de se développer en augmentant le seuil de couverture à 150 millions d'auditeurs potentiels pour un même groupe. Alors donc forcément Énergie cherche à racheter des réseaux, mais les diverses tentatives, notamment pour acquérir RFM, n'aboutissent pas. Et donc c'est pour ça que Énergie va en fait chercher à acquérir des radios locales un peu partout en France.
Voilà, et le souci c'est que ces radios sont de catégorie B, c'est-à-dire que les conventions signées avec le CSA pour les autorisées à émettre, stipulent qu'elles ne doivent pas diffuser un programme national identifié. Énergie s'était déjà fait pincer pour diffuser sur Pulsion FM en Basse-Normandie le programme Rire et Chanson au début des années 90. Les trois fréquences obtenues en 91 ont été retirées en 1994. En février 95, un groupement de radio indépendante régionale est créé. Il s'appelle le GIE Rire. Aux côtés de Rire et Chanson, on y retrouve 13 radios locales présentes un peu partout en France, dont Radio Star à Mulhouse et Radio Service à Marseille. Le patron de ces deux radios, Marc Zenou, prend la direction de la nouvelle régie publicitaire régionale au service du GIE, mais surtout pour le compte du groupe Énergie. Petit à petit, ces 13 stations en province changent de format pour ressembler de plus en plus au programme de Rire et Chanson et vont même jusqu'à adopter les différentes jingles du style la FM du rire ou la radio la plus drôle pour ressembler donc à Rire.
Alors, il faut savoir que ces jingles étaient même enregistrés à Paris par un certain Mike, c'était un animateur du groupe Énergie. Et un exemple avec une des radios du GIE Rire, une station toulousaine nommée Laser. Écoutez.
Laser à Toulouse, 94.4, la radio la plus drôle. Laser, la FM du rire à Toulouse, 94.4.
Donc très clairement, Loming, on sent que c'est Station qui imite Rire et Chanson. Là, franchement, le groupe Energy joue avec les règles du CSA.
Oui, surtout lorsqu'une banque de programmes radio fait son apparition sur le satellite. Elle s'appelle Canal B, la radio du rire, et c'est une copie de Rire et Chanson reprise par les stations locales. Voici un exemple de top horaire avec l'habillage musical de la radio du rire diffusée sur RVS à Rouen.
RVS, merci d'être avec nous, il est 9h.
Alors RVS, c'est une radio sur laquelle tu as officié.
Je suis arrivé sur RVS à l'été 96.
Et bon, après, on peut comprendre Energy qui trouve que le CSA ne fait pas preuve d'équité dans ses décisions en autorisant la CLT, donc le groupe RTL, à monter au capital de RTL2 et Europe 1 dans RFM, alors que sa demande pour constituer le réseau Rire et Chanson, bah, lui, traîne, quoi.
Oui, surtout, les radios B peuvent passer en catégorie C, donc diffuser un programme national, à condition qu'elles rendent leur fréquence et qu'elles déposent un nouveau dossier d'attribution au CSA. Mais c'est au risque, alors, de perdre définitivement la fréquence. Mi-juillet 96, le groupe Energy affirme avoir signé un accord de franchise Rire et Chanson avec déjà 100 radios locales. 15 d'entre elles basculeront donc le 4 décembre 96 à 15h sur le programme de Rire et Chanson cette fois-ci.
Alors ça, c'est un véritable coup de force de Energy qui n'est pas autorisé à faire ça. Sur Laser à Toulouse, on pouvait donc entendre la matinale de Rire et Chanson, L'Argence Tout Rire, avec Pascal Argence.
6h-9h sur Rire et Chanson, L'Argence Tout Rire.
Osez. Pour l'heure, fini de rire sur Rire et Chanson, les infos pour de vrai, il est tout juste 8h30.
Laser, bonjour. Laser, c'est Rire et Chanson Toulouse. Excellente journée avec nous après l'attentat d'aventure.
Donc ça, c'est sur Laser. Forcément, là, ça va trop loin. On entend très clairement le nom Rire et Chanson. Donc là, c'est du programme national, en fait.
Exactement. Donc le CSA exige un rebasculement au programme intégralement locaux et les autres groupes radio protestent, mais Energy ne plie pas. Au contraire, le groupe va utiliser ses antennes et toutes ses antennes pour plaider sa cause en mobilisant animateurs et humoristes connus qui vont, dans des messages diffusés, prendre la défense de Rire et Chanson.
Je vous demande de vous arrêter.
Communiqué. Le CSA demande à Rire et Chanson de ne plus diffuser de sketch comique.
Salut, c'est Patrick Sébastien. Je suis de tout cœur avec Rire et Chanson. Que l'humour soit en danger, ça fait longtemps que je le savais. J'étais un des premiers à en être victime et ça me ferait beaucoup de peine que vous en soyez aussi les victimes. Alors je suis de tout cœur avec vous parce que je vous écoute régulièrement, que je vous aime et puis qu'il faut que vous duriez en toute liberté.
Je suis Laurent Baffy et contrairement aux autres, je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec le CSA pour museler Rire et Chanson, qui est une petite radio qui a tendance à avoir un petit peu trop de succès et donc il faut la faire taire. Donc vive le CSA, à bas Rire et Chanson.
Bonjour, c'est Bernard Azimut. Eh ben moi ça me fait pas rire, c'est pas drôle du tout. Interdire le rire, alors on interdit d'abord les sketchs comiques, et puis après on interdit les chansons tristes, et puis on interdit aux gens de danser, et puis on enferme ceux qui sont contre. Et puis un jour on se dit, mais enfin, c'est pas possible, comment ça a commencé? Mais comment ça a pu commencer? Eh ben, ça a pu commencer, ça a été possible. Faut demander au CSA. C'est possible.
Allô, c'est Gustave Parking. Je suis plutôt actif, j'essaie d'être radioactif, parce que j'aime beaucoup la radio, en général. Et au départ, Rire et Chanson m'a soutenu, et je pense que c'est une bonne radio, parce que c'est à la fois du rire, ce que j'aime bien, et à la fois ça véhicule des idées intéressantes, et des chansons, parce que j'aime bien aussi le swing, et ça véhicule aussi des idées intéressantes. Donc si on écrase un peu les radios qui défendent des idées, c'est un peu dommage. Faudrait mieux vous occuper de Radio Courtoisie, qui s'occupe de défendre des idées qui ne sont pas les miennes, et qui sont anti-républicaines. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Il faut qu'il y ait les radios privées qui puissent vivre, et les radios publiques qui puissent vivre aussi, et tout ça, ce sera le mieux. Donc je soutiens Rire et Chanson dans son opération. C'est dit.
Extrait du 12 décembre 1996. Lomi, tu t'en souviens de cette mobilisation-là?
Ouais, absolument, et de ces messages diffusés. Pour la petite anecdote, la voix qu'on entend au tout début qui annonce ces messages, c'est celle de Hervé Pouchol, qui était animateur sur Rire et Chanson à l'époque, et qui fait aujourd'hui partie de l'équipe des négociateurs de Julien Courbet sur RTL et dans sa nouvelle émission d'M6, qui a pour habitude donc d'intervenir pour régler les conflits, notamment entre voisins. Bah là, il avait été envoyé au front pour régler les conflits entre le groupe Energy et le CSA.
En tout cas, ce type de message-là, on a même pu en entendre sur Energy.
La radio Rire et Chanson est censurée. C'est la plus grande répression de l'histoire de la FM. Le CSA va interdire 60 radios de province et supprimer près de 200 emplois parce qu'elles ont choisi librement de diffuser le programme Rire et Chanson, composé essentiellement de sketchs comiques. Jamais dans l'histoire de la FM, on avait assisté à une telle volonté de répression. Aussi, Rire et Chanson mobilise ses auditeurs, avec le soutien des comiques et des humoristes. Par les temps qui courent, est-il sérieux de vouloir empêcher les Français de rire? Ce combat est celui de la liberté d'expression. C'est pourquoi Énergie se déclare solidaire. Mobilisez-vous pour faire connaître votre mécontentement en téléphonant à Hervé Bourges, président du CSA, 01 40 58 38 00.
Programme Z. Donc on a parlé de censure, le groupe Énergie allait quand même un peu loin, il y avait un petit peu de mauvaise foi, on est quand même d'accord.
C'était des méthodes en tout cas qui avaient fonctionné, puisque on s'en rappelle peut-être pour les plus anciens, mais en 84, une grande manif avait été organisée à l'époque par Max Guazzini, qui était à la tête de Énergie, pour demander l'autorisation d'émettre pour Énergie cette fois-ci, en faisant un coup de force avec les auditeurs dans la rue à Paris, et ça avait fonctionné, donc c'est un peu la même méthode appliquée à Rire et Chanson, essayer de mobiliser la foule au nom de la liberté d'expression et de la défense de l'humour et du droit de rire contre le CSA.
Donc le CSA a fini par plus ou moins plier, il a reçu les dirigeants d'Énergie le 15 décembre 1996. Le CSA a accepté de négocier à condition que les 15 stations en faute reprennent les programmes locaux. Donc le soir même, celle-ci rebascule de Rire et Chanson au programme Radio du Rire.
Le tout jusqu'en mars 1997, où le CSA réunit les différents groupes de radio et propose une remise à plat complète des fréquences contrôlées par chacun d'entre eux. C'est ce qu'on a appelé le Yalta des fréquences. Le 19 novembre 1997, le CSA annonce ainsi la redistribution de 472 fréquences entre acteurs locaux, régionaux et nationaux. Et c'est ainsi que finalement, les stations locales de Rire et Chanson peuvent passer en catégorie C.
Alors le souci, c'est qu'elles vont pas rester très longtemps en catégorie C, tout simplement parce que en mars 98, l'État autorise Énergie à prendre le contrôle de 80% du capital de Radio Nostalgie, et là, ça bloque.
Oui, Nostalgie qui est un réseau de stations locales, ce qui fait que Énergie détient alors 4 réseaux locaux puissants et se retrouve en position dominante sur certaines zones géographiques. Le CSA contraint alors le groupe Énergie à fermer un de ces 4 réseaux locaux pour éviter un monopole sur le marché de la pub locale. Le réseau Rire et Chanson est le moins intéressant commercialement parlant, il est ainsi sacrifié. Pas de publicité locale, donc inutile de produire du contenu local. Les commerciaux, journalistes et animateurs en province qui venaient historiquement de radios de catégorie B sont soit licenciés, soit réintégrés ailleurs sur d'autres antennes du groupe. Et les fréquences des stations en région Rire et Chanson deviennent toutes passives de catégorie D, donc c'est-à-dire sans décrochage local.
Alors c'est fou parce que l'ironie de l'histoire, c'est que le CSA voulait à tout prix protéger l'emploi local en 95. Et donc ce sera le CSA qui sera à l'origine de la suppression de nombreux postes partout en France, 3 ans plus tard en région.
Oui, et finalement le groupe Énergie ressort grand gagnant de son combat. En ayant transgressé les règles, le groupe a pu grossir en toute légalité son parc de fréquences, dont certaines avaient auparavant été obtenues de façon officieuse. Il faut le dire, c'est un coup de génie.
Et toi, tu as connu ça, hein, c'est-à-dire que toi, tu étais à RVS et tu es passé ensuite à l'antenne de Rire et Chanson. En fait, c'est plus ou moins Énergie qui t'avait recruté déjà à l'époque en 96.
Oui, c'est ça. J'avais envoyé une maquette à Rire et Chanson. J'ai été contacté par quelqu'un qui avait écouté cette maquette, mais qui ne travaillait pas pourtant pour le groupe Énergie. Officiellement, il travaillait pour le GIE Rire, dont les bureaux étaient tout à fait ailleurs qu'au siège de Énergie. Il fallait surtout pas mentionner Énergie en allant là-bas, et c'est via cette personne, ce représentant du GIE qu'on m'a proposé de rejoindre RVS, où je suis resté 6 mois à Rouen, où j'ai donc assisté à ce passage sur Rire puis retour en arrière, et ensuite j'ai rejoint l'antenne nationale de Rire, d'abord le week-end, puis au morning. Ce qui était amusant aussi à l'époque, c'est qu'il y avait le studio principal de Rire et Chanson, et derrière le mur du studio, derrière la cloison, il y avait un mini-studio aménagé dans un ancien bureau, qui était le studio de Canal B, où donc était diffusé le programme BIS de Rire et Chanson. C'était le même programme, mais sans l'identité Rire et Chanson, sans les jingles Rire et Chanson, et avec d'autres animateurs qui faisaient en fait un double programme derrière la cloison du studio.
Formidable histoire en tout cas, hein, qui aura clairement marqué l'histoire du paysage radiophonique français. Et merci hein, Lomig, d'avoir accepté l'invitation.
C'était un plaisir de revenir sur ces années et de parler d'actualité aussi avec toi.
Cette dernière partie de l'épisode est tirée d'un article du blog Le Transistor d'Hervé Marché et de choup.fr. Les extraits sonores proviennent également de ces deux sites. Les liens sont à retrouver dans la description. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles à l'émission. Vous étiez particulièrement nombreux à avoir écouté l'épisode précédent avec Même de Radio. Merci à vous qui nous écoutez. Merci pour vos retours qui font très plaisir. Et n'hésitez pas à continuer de commenter sur vos apps de podcast ou sur Twitter, @AnthonyGrou2ZRUD, ou par mail, contact@vocast.fr. Prochain épisode le 1er décembre 2020. À très bientôt. Ciao.
Des Ondes Vocast.